Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Et cette semaine, podcast exceptionnel, puisque nous ne serons pas un, pas deux, pas trois, mais quatre! Faites péter le champagne, je serai accompagné cette semaine de ATH.
Salut à tous.
De Mordren.
Salut.
Et de Ben.
Salut.
Ça va, tu n'as pas coulé sous les eaux, Ben, tout
pas
va bien?
Pas encore, je résiste.
Parce que je rappelle à nos auditeurs que Monsieur Ben réside à Montpellier, n'est-ce pas?
Juste à côté, ouais.
Une ville très connue pour être envahie par les eaux ces derniers temps, donc voilà. On s'inquiète un peu à chaque fois qu'il pleut maintenant.
Ouais, bah maintenant, à chaque fois qu'il pleut, je débranche ma box, je ferme tout, je... C'est sympa.
Voilà. Donc, au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons du Kickstarter d'un certain Bubble Chasers. On enchaînera ensuite sur Metal Gear Solid 5 qui a eu droit à un nouveau bug. On parlera de Dark Souls 3 dont on a eu plein d'infos cette semaine. Nous évoquerons également The Witcher 3, dont on en a appris plus sur la prochaine extension. Retour du monde des morts de Dragon's Dogma, Dark Horizon, qui va bientôt débarquer sur PC, alors que sa version online vient de sortir au Japon avec un franc succès, paraît-il. Du côté de chez Nintendo et des youtubeurs en général, on vous parlera de plein de conneries qui nous font dire encore une fois cette semaine que décidément YouTube c'est pas top. Et enfin, on terminera par le prochain jeu de Mordren, n'est-ce pas? Celui qui va l'occuper autant que Ark Survival Evolved, c'est Pokémon Go! On commence tout de suite, là maintenant, par un Kickstarter qui a l'air bien. Ça s'appelle Battle Chasers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Battle Chasers, comme à peu près tous les intervenants de ce podcast, qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation d'un comics qui est sorti à la fin des années 90. Et pour ceux qui seraient, vraiment qui ne connaîtraient rien en comics, c'est fait par un certain monsieur que vous connaissez très certainement, puisque il a bossé entre autres sur un petit jeu qui s'appelait quoi, man, déjà Darksiders. Et oui, parce que le studio derrière ce projet se nomme Airship Syndicate. Il est composé d'anciens de Vigil Games, n'est-ce pas, qui avaient travaillé donc sur Darksiders, et parmi eux, donc, il y a donc Mister Madureira, n'est-ce pas, un monument du comics, et qui est connu entre autres pour cette série-là. Et bon, ben voilà quoi, j'ai envie de dire, déjà, avant de parler de tout ce qu'il y a derrière ce projet, messieurs, c'est beau quand même.
Oui, c'est au
c'est
départ
beau,
en fait.
Mais c'est anguleux.
au départ, je me suis dit ils nous vendent un JRPG, mais le seul truc intéressant là-dedans, c'est que c'est beau. Et au final, pas du tout. Il y a un certain nombre de petites features qui ont l'air assez sympas que Thierry nous détaillera tout à l'heure. Mais déjà, c'est vrai que premier constat, c'est vraiment très très joli et avec un visuel qui est vraiment fidèle aux comics, quoi. Donc c'est assez intéressant, plus des petites cutscenes en 2D complètement magnifiques. Donc moi j'ai hâte d'en voir un peu plus.
En plus, c'est un petit côté Bastion. Enfin voilà, en fait, c'est un rendu à la Bastion. Et tu sais, c'est quand je vois ce type de jeu que je me dis mon Dieu, si seulement tous les JRPG qui ont pu être financés sur Kickstarter pouvaient laisser tomber le côté réaliste et faire ça, tu vois, avoir un rendu en 2D comme ça. Mais à ATH, toi, j'ai l'impression que ça te plaît pas plus que ça. Enfin, le côté anguleux, justement, ça te rebute un peu, j'ai l'impression.
Bah en fait, si tu veux, la direction artistique, j'aime bien, mais c'est les personnages, je les trouve... tu sais, c'est les personnages à l'américaine, quoi, super balèze et tout ça. Et j'avais eu le même problème sur Darksiders, le design de War, le personnage que tu jouais dans le premier Darksiders. Je l'ai trouvé vraiment carré tout ça, mais bon, c'est pas un truc vraiment gênant.
Après, on va dire que c'est le style de Madureira, quoi.
Voilà, c'est ça.
Bon, alors, Pour vous parler plus en avant du projet, donc c'est un Kickstarter qui demandait 500 000 dollars, il est déjà à 578 000, il reste 27 jours, tout va bien. Voilà, il n'a pas forcément besoin de votre argent. Alors, au départ, enfin, ce qui m'a étonné, si vous voulez, c'est que effectivement, quand tu vois la vidéo comme ça, tu dis, ouais, bon, d'accord, un JRPG à l'ancienne avec des donjons générés aléatoirement, bon. Alors c'est pas forcément enthousiasmant comme ça, par contre quand tu commences à lire les features dans le détail, alors certes c'est pas un Kickstarter qui va réinventer le fil à couper le beurre, par contre il propose des trucs, franchement tu, quand tu lis ça tu dis bon, il y a quand même quelques petites originalités malgré ce qu'il va bien en dire. Hein. Par exemple il y a le fait que tu n'as pas d'action de base dans ce JRPG à l'ancienne entre guillemets, c'est-à-dire que toutes tes actions vont te coûter du mana et il y a deux types de mana. Sachant que en fonction du type de mana que tu vas utiliser, donc soit le mana bleu, soit le mana rouge, tes actions n'auront pas la même efficacité en fait. Sachant que le mana rouge en fait c'est un mana que tu régénères avec tes certaines actions en te prenant des coups par exemple. Donc voilà, il y a déjà tu vois de base c'est une petite originalité comme ça que je trouve fort sympathique. Ensuite, par rapport, vous savez, à tout ce qui est gestion de l'initiative dans les combats, etc., on a un espèce de système de slot, en fait, où sur chaque slot, t'auras des effets aléatoires qui vont se déclencher, par exemple poison, des trucs comme ça, ou même des effets positifs qui vont peut-être justement bouleverser complètement le combat. Ensuite, par rapport aux donjons, on a des trucs genre, alors bon, certes les donjons sont aléatoires, mais t'as quand même pas mal d'énigmes et de choses comme ça. Et en plus, comme les héros, si vous voulez, ont des capacités spécifiques qui vont permettre de déjouer des pièges, alors ça peut être intéressant, faut voir comment ils vont gérer ça. Du côté de la gestion des monstres, alors là on, par contre on est dans du pur classique, c'est du système à la Grandia où tu vois les monstres sur la map et il faut les toucher vraiment pour déclencher un combat. Mais moi par contre, là ce qui m'a fait complètement délirer, c'est je pense qu'il y a des fans de Phantasy Star dans le lot là, parce que c'est les donjons ont l'air à peu près aussi hardcore que dans Phantasy Star, mais à leur manière, c'est-à-dire que en gros, dans ce jeu, mourir signifiera perdre tous les items non essentiels en fait. Donc perdre tous les items non essentiels, j'imagine que ça veut dire perdre du stuff, perdre des objets, de soins, ce genre de choses. Et en gros, ce qui se passera, c'est que tu auras une seule salle dans chaque donjon où tu pourras aller, où tu pourras te soigner, où tu pourras stocker des objets. Mais par contre, il faudra que tu fasses gaffe parce que pour stocker tes objets, tu ne pourras le faire qu'une fois.
Ouais. Un jeu hardcore comme je les aime, moi.
Voilà. Donc, bon, alors, certes, comme ils le disent, c'est un JRPG à l'ancienne, quoi, et ne serait-ce qu'en termes de difficulté, j'ai envie de leur donner raison, mais il y a quand même quelques petites choses en termes de gameplay que j'avais pas remarqué, tu vois, en voyant la vidéo de présentation, qui font que, finalement, moi, je trouve que ça a l'air intéressant, quoi.
C'est sûr, ça a l'air intéressant, mais comme tu dis, ça... C'est un peu hardcore, ça va pas s'adresser à tous les joueurs non plus.
Bah en même temps, j'ai envie de dire, d'où Kickstarter. Hein.
Ouais, bien sûr, mais bon, quand tu vois déjà combien il a été financé, est-ce que tous les gens qui ont backé se rendent compte de ça et vont pas être un peu déçus aussi? Parce que bon, c'est sûr, il a une image derrière lui, comme tu dis, ça vient d'un comics qui est assez connu, donc je pense qu'il y a certains fans aussi qui ont vite backé.
Mais surtout que Darksider, il est pas spécialement connu pour sa difficulté. Hein.
Ouais. Mais là, c'est vrai que ça peut, enfin, si tu regardes pas dans les détails, ça peut faire un peu peur quand même, parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains, ou sinon ça va vite décevoir, les gens vont abandonner, ce que je peux comprendre aussi. Hein.
Oui, mais après, si tu veux, j'ai envie de dire, à un moment, il faut lire le Kickstarter, quoi.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tous les gens qui viennent là lisent l'intégralité de tout ce qui est détaillé dans la page Kickstarter? J'en suis pas sûr. Ouais, après, bah, c'est leur alors, faute, hein.
Ça, oui, c'est ça que je veux dire, quoi. Bien on sûr, est ouais, d'accord, il y aura potentiellement des gens déçus, mais là, pour le coup,
ils préviennent avant.
C'est leur problème.
Voilà. Je veux dire, à un moment donné, quand les mecs te donnent des références comme Phantasy Star,
oui, tu sais
que ça va être à peu près hardcore sur les donjons, quoi. T'as une petite idée que voilà, ça va pas être évident. Quand ils te font la liste des features par le menu, tu vois que t'as que des features hardcore, tu te dis bon.
Oui, priori, c'est un jeu pour hardcore. Tu cernes vite le jeu, c'est sûr.
Mordrain, est-ce que ça t'attire ce genre deux choses.
alors moi, ça m'attire visuellement, évidemment. Après, je trouve que les features hardcore, c'est toujours sympa. Après, moi, c'est vous me connaissez, je suis pas ce genre de joueur. Donc oui, alors effectivement, c'est magnifique. Après, j'attendrai de voir effectivement comment ça se joue et est-ce que je serais capable moi d'y jouer jusqu'au bout quoi. Et je me pose sérieusement des questions.
Bon, par contre, moi, le seul reproche que je ferais, c'est histoire. Non, anyone? Non, parce que tu regardes la page du Kickstarter. En gros, je pense que les mecs partent du présupposé que tu connais l'univers si tu veux backer le jeu. Alors, en gros, l'univers, j'ai l'impression, t'as un truc où il y a de la brume et quand les mecs vont dedans, un peu à la Demon's Souls, ils disparaissent quoi. Voilà, fin de l'histoire. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans la narration, ils veulent s'en inspirer un peu de Demon's Souls, Dark Souls et compagnie, parce que le fait de, en fait, la narration se fera du coup par le fait de débloquer certains objets, etc., fera avancer la narration. Enfin voilà quoi. Mais voilà, l'univers fondamentalement, ça se résume en un paragraphe et il y a pas grand chose quoi. Donc en gros, c'est une fille qui veut aller, de ce que j'ai compris, qui a perdu son père, qui est allée là-dedans. Son père c'était un héros et elle va là-dedans pour le retrouver quoi. Super, bon ok. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas l'histoire pour le moment qui fait rêver. Bon, j'imagine que comme c'est un comic à la base, peut-être que l'histoire est intéressante, mais j'en sais rien en fait. Et c'est ça le problème, c'est que quand je lis le Kickstarter, j'ai vraiment l'impression que les mecs partent du présupposé. Alors ouais, ok, tout le monde connaît Battle Chasers, c'est un comic culte. Oui, bon, sauf que déjà, tout le monde n'était pas né à cette époque, forcément. Et en plus, même pour ceux qui étaient nés, je vous rappelle, hein, la fin des années 90, c'était les débuts d'Internet, hein, et encore. Voilà, c'était les débuts de l'Internet, pas grand public, on va dire. Donc, il eût été bien de vraiment préciser ce que c'était, quoi, comme truc. Donc, voilà. Donc,
d'autant plus si le jeu se place sur une timeline différente que le comics. C'est-à-dire que si c'est avant, si c'est après, si c'est l'adaptation pure et dure du comics, ça change beaucoup de choses quand tu backs en termes d'histoire.
Voilà. Alors, sachant que je précise juste hein, pour les amateurs de comics qu'ils ont annoncé également que le comics reprendrait sa publication, ça c'est juste pour l'anecdote, sachant que le mec, bon, Joey Madureira n'est pas spécialement connu pour avoir un rythme de parution soutenu, on va dire, à votre place je compterais pas trop dessus, voilà, donc, bon voilà, sinon magnifique, moi franchement, rien que quand je vois les screenshots, j'ai envie de backer, c'est tout. Bon, allez, messieurs, je vous propose d'enchaîner.
Pourquoi tu l'as pas fait?
Ah oui, merci Ben de me rappeler ce truc. Pourquoi j'ai pas backé? Parce que c'est cher quand même. C'est très cher. Parce que il faut voir une chose. À la base, il y avait un palier de $20. Ça, j'aurais backé les yeux fermés. Par contre, là maintenant, le ticket d'entrée c'est $27 et bientôt ça va passer à 30.
Oui, parce qu'ils avaient limité donc le nombre de contributeurs pour les entrées, les premières entrées à 20 et $25, c'est ça.
Voilà. Et moi déjà à la base, je suis pas forcément fan de système et $30, je trouve que ça commence à faire beaucoup pour un jeu qui est pas sorti quoi. Enfin voilà, quand même tu prends un certain risque, je trouve, sur Kickstarter et je veux dire pour $30 et même pour beaucoup moins que ça, j'ai des super jeux qui sont déjà sortis. À un moment donné, tu vois, quand je vois qu'en plus que le Kickstarter se porte très bien,
il a pas besoin de toi.
Il a pas forcément besoin de moi. En plus, les stretch goals pour le moment, moi, ils me font pas forcément rêver non plus, quoi. Donc bon, à partir de là, pourquoi financer un projet qui est déjà financé, alors que bon, je pourrais m'acheter un vrai jeu, enfin un jeu qui est sorti, quoi, déjà, ou même financer un autre projet, tout simplement. Parce que là, pour le moment, en fait, pour vous faire la liste des stretch goals qu'ils ont pas encore atteints, alors, certes, il y a les autres langues, à partir de $575,000, dont le français. Ça, c'est intéressant pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est cool. Sachant quand même que moi, je me méfie de plus en plus, tu sais, des traductions de jeux Kickstarter, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas été convaincu, hein, je dois vous avouer. Même Pillars of Eternity, bon, c'était correct, mais c'était pas du qualité de ce qu'on pouvait avoir, par exemple, sur un Planet Escape Torment, ce genre de choses. Après, bon, c'est du stretch goal classique, c'est une nouvelle zone, voilà, quoi. Enfin, c'est pas... ça fait pas rêver, quoi. Voilà. Bon, messieurs, on va enchaîner maintenant, mon cher ATH. Enfin non, c'est pas ATH, excusez-moi. ATH, lui, c'est celui qui va réagir. Ouais. Et oui, parce que c'est le seul qui a joué à Metal Gear Solid 5, n'est-ce pas ? Car oui, on va parler de Metal Gear Solid 5, Ben. Alors, il y a eu un petit bug, mon cher Ben.
Un léger bug,
sur
oui.
Qui a été découvert sur MGS5. Bon, un bug qui apparemment va bientôt être corrigé, mais un bug quand même.
Ouais, un bug très sympa qui, suivant, alors, il fallait quand même que ça soit sur certaines missions avec un certain compagnon, etc. Mais ça vous crée une corruption de sauvegarde. Donc le truc bien sympa quand tu joues à un jeu, t'arrives dans ta progression. Alors ATH pourra peut-être nous dire si c'est assez tôt ou pas dans le jeu. Mais du coup, c'est, il parle des missions 29 et 42. Et donc suivant ce que tu faisais, notamment avec Quiet comme personnage, tu te retrouves avec ta sauvegarde corrompue. Donc pas de possibilité, obligé de recommencer le jeu. Donc là, Konami a dit qu'ils avaient repéré d'où venait le bug, qu'ils allaient le corriger. Donc voilà, pour l'instant, ils donnent des conseils, voilà, utiliser l'emblème papillon pendant la mission. Enfin, ils donnent 2-3 conseils pour éviter le bug. Mais bon, pour ceux à qui c'est arrivé, je pense que ça les a bien fait chier quand même.
ATH, déjà, est-ce que tu as perdu ta sauvegarde ?
Non.
Du coup, c'est assez tôt, là, les missions 29 et 42 par rapport à la progression dans le jeu, c'est... Ça n'est ouf.
Non, c'est assez loin, en fait.
C'est assez loin,
ouais.
Donc c'est
ouais, plus, même ouais. Si tu fais que l'émission principale, tu vas mettre un peu de temps avant d'y arriver, et il y a aussi le fait qu'il faut que ton niveau de lien soit au maximum avec Quiet pour que, en tant que personnage de soutien, pour que ça déclenche le bug. Mm-hmm. Par contre, ce que je trouve bien de la part de Konami, c'est qu'apparemment ils ont identifié le bug et que pour ceux qui ont perdu leur sauvegarde, ça va leur permettre de revenir à leur save précédente, en fait. Donc
le problème, c'est que je pense que les gens à qui c'est arrivé au début ont recommencé le jeu du coup aussi. Donc mais après oui, c'est quand même bien, ceux qui ont pas eu le courage de recommencer, ils vont pouvoir récupérer leur save. Ouais, c'est pas mal.
J'espère que ils vont pas être trop tardés quoi à leur corriger ça, parce que enfin c'est vraiment un gros bug. Après, c'est dommage parce que le jeu en lui-même, il y a pas trop de bugs quoi.
Il est bien
en général
fini,
les AAA quand ils sortent aujourd'hui, il y a toujours un patch Day One et tout ça. Là, le jeu, il tournait nickel en 1080p, 60 fps. Il y avait pas de chute de framerate, tout ça, ou de correctif qui a été fait. Donc, c'est un petit peu embêtant qu'il y a ce problème-là qui arrive, quoi.
Mmh. Ouais, c'était un jeu bien fini, mais ouais, c'est un bug gênant, du coup, quoi.
Ouais, un bug très très gênant même, parce que moi je pense que si ça me serait arrivé ça, j'aurais pété un câble, je crois que le jeu je l'aurais balancé par la fenêtre, quoi.
Et la console avec.
Non, quand même pas.
Je vais pas blâmer
Sony à cause de Konami. Et puis ça coûte plus cher une console à racheter.
Donc voilà, bon, contrairement d'habitude, on va pas faire une shitstorm, pas possible, parce que bon, le jeu globalement est quand même bien fini, hein, faut dire ce qui est. Et franchement, j'espère vraiment qu'ils vont corriger ça rapidement, par contre, parce que c'est juste pas acceptable. Pas.
Bah, s'ils ont repéré le bug, s'ils savent d'où ça vient, ça va être vite corrigé a priori.
Mais bon, par contre, ATH, tu vas garder la parole. Et tu vas nous parler de Dark Souls 3, qui a eu plein d'annonces de features cette semaine.
Ah oui, il y a eu tellement d'annonces que je pense que je vais m'arrêter après chacune d'elles pour voir ce que vous allez dire, enfin, prendre vos réactions, quoi. Bon, donc, c'est suite à un entretien avec Game Informer que From Software a dévoilé pas mal de détails sur Dark Souls 3. Déjà, le jeu est prévu fin mars 2016 sur PS4, Xbox One et PC. La old gen, on va dire, est laissée de côté sur celui-là. On va voir s'ils vont réussir à aboutir à quelque chose de plus léché que Bloodborne. Le premier détail qui a été annoncé, c'est celui qui me fait un peu plus peur, c'est que le système de voyage rapide sera disponible dès le début du jeu, un peu comme Dark Souls 2.
Alors, pourquoi ça te fait peur ?
Ça me fait peur parce que, si tu veux, dans Dark Souls 1, t'avais vraiment l'impression d'être dans un univers cohérent, et tu devais te rendre à chaque zone par toi-même. Par exemple, si tu étais sur un pont et tu voyais un château à l'autre bout de la map, comme l'agencement du niveau et du monde était bien amené, et bah au bout d'un moment t'allais arriver à ce château là, mais tu pouvais pas t'y téléporter directement. Alors que dans Dark Souls 2, tu pouvais à chaque feu te téléporter quasiment n'importe où sur les feux qui étaient de chaque début de zone, mais si tu veux ça a perdu un peu de cohérence et l'univers, et il y avait moins cette impression de découverte, quoi.
Le fait qu'ils aient mis la téléportation dès le début n'a pas incité les game designers à réfléchir leur niveau, en fait, pour créer des raccourcis qui permettraient de retourner à certaines zones, enfin voilà. Du coup, enfin, déjà il y a ça, et moi je rajouterais une chose par rapport à ce que tu dis. c'est que le fait de ne pas permettre aux gens de se téléporter dès le début dans Dark Souls, moi je trouvais que ça rajoutait une tension en fait. C'est-à-dire que des fois tu t'enfonçais dans une zone si tu veux et t'étais inquiet quoi, c'est-à-dire que tu t'éloignais de plus en plus, tu vois. Et tu te disais, enfin tu ne pensais qu'à une chose, c'était trouver le raccourci qui te ramènerait au sanctuaire Lichefeu quoi. Enfin ouais, voilà. On est bien d'accord que certes le fait de permettre aux gens de se téléporter incite à la fainéantise des game designers, qu'on va dire, mais ça n'empêche pas normalement de créer des niveaux vraiment bien faits, quoi. C'est juste que dans Dark Souls 2, ils ont eu la flemme, quoi. En gros.
C'est ça, ouais.
Ils auraient très bien pu mettre la feature de téléportation dès le début du jeu, tout en faisant des niveaux cohérents, quoi. L'un n'empêche pas forcément l'autre. C'est juste que l'un incite à la fainéantise, quoi, on va dire.
On va dire que pour moi, le premier Dark Souls, c'était, si tu veux, il y avait cet aspect un peu Metroidvania, tu vois,
ouais.
qui était pris en compte. Sauf que là,
Metroidvania dans la construction des niveaux. Hein,
voilà. Hein, pas parce que là, tu débloquais pas une capacité qui te permettait d'accéder à une nouvelle zone, mais c'était genre la clé ou bien la porte qui te bloquait, ou t'as trouvé un détour situé en faisant tomber un pont, qui donnait cette impression-là. Après, autre chose qui a été annoncée, c'est bon, ça, je pense qu'on va pas s'attarder longtemps là-dessus, c'est la possibilité de réinitialiser les statistiques du personnage afin de redistribuer les points de compétence. Alors qu'avant, quand tu validais un point de compétence et que tu montais d'un niveau, c'était définitif. Là, ils ont fait ça pour si tu veux essayer plusieurs bulles différentes, tu veux jouer avec un personnage rapide, fort, tu seras pas obligé de recommencer avec un nouveau personnage et te taper 300 heures de jeu pour arriver à un niveau suffisant pour tester un petit peu. Je trouve ça plutôt bien.
Oui, après par contre, j'ai peur, si tu veux, que ce soit prétexte à ne pas bosser l'interface comme ils ont l'habitude d'en faire. Parce que, enfin, moi j'ai un problème avec Dark Souls, hein, je le dis, c'est que l'interface est pas du tout claire, quoi, et que tu progresses par expérimentation, quoi, on va dire. Alors, ça a certains bons côtés, mais j'ai peur qu'en fait, le fait de rajouter cette feature, tu vois, les mecs vont se dire, bon, bah, de toute façon, ils peuvent reset leur stat, donc ça va, hein, tout va bien. Donc voilà, que ça ne les empêche pas, tu vois, de faire un système clair et compréhensif, quoi.
Ah oui, ça, c'est sûr. Ensuite, le New Game Plus s'inspirera aussi de Dark Souls 2 en prodiguant des nouvelles armes quand tu vas recommencer le jeu, objets, et aussi ils vont modifier par contre le placement des ennemis, c'est-à-dire que tu auras pas les mêmes, ils sont pas mis au même endroit afin de renouveler ta run, et que si t'avais l'habitude qu'il y avait tel ennemi qui était caché derrière la porte, et bah là il sera plus forcément ici, et ce qui peut donner un effet de surprise supplémentaire.
Bah ça c'est bien, parce que bon, c'est vrai que Dark Souls, à un moment donné, en New Game Plus, même si les ennemis sont plus forts, tu fais quand même les jeux fermés, quoi.
Voilà.
Donc, ouais, c'est vraiment pas mal, ça.
Après, il parle aussi de la durabilité des armes, parce qu'il trouvait que dans Dark Souls 2, elles se brisaient trop vite. Donc là, ils vont trouver un compromis entre le premier Dark Souls et Dark Souls 2. Et je rappelle que dans Bloodborne, les armes ne suffisaient pas. Donc là, ils veulent vraiment faire un mix des deux.
Alors, toi justement qui es habitué à Bloodborne, est-ce que ça va pas te rebuter de revenir à un système du jeu d'armes ?
Non, parce que j'ai joué aussi à Dark Souls, à Demon's Souls, et puis ça faisait partie.
Mais bon, si tu veux, une fois que t'as goûté à un certain type de gameplay, des fois t'as du mal à revenir en arrière, c'est ce que je veux dire.
Bah non, en fait, moi c'est pas ça qui va me déranger le plus c'est... C'est sur la lourdeur des personnages qui reviennent comme dans Dark Souls 1 et 2. Par quand t'as joué à Bloodborne, alors que là, tu vois, t'as vraiment l'impression de contrôler un personnage assez fluide. Mais d'après ce que j'ai vu, ça se traîne quand même beaucoup moins le cul que les anciens Dark Souls. Donc, ce côté-là, je suis plutôt rassuré aussi.
Mais par contre, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que, moi, de ce que j'ai compris des critiques sur Dark Souls 2, alors faut savoir que j'ai le jeu, mais que je ne l'ai toujours pas fait. Enfin, j'y ai joué à peine, quoi. Et en gros, le problème de Dark Souls 2, c'est qu'ils avaient voulu vraiment faire du hardcore pour faire du hardcore, quoi. Et ça faisait partie des features complètement stupides, de ce que j'ai compris, qui gâchaient un peu le jeu, quoi.
Et en plus de ça, avant, sur la version PC, Et PS4 et Xbox One aussi, quand elle est sortie après, il y avait un problème, c'est que le fait du jeu qui tourne en 60 images par seconde, bah les armes elles se brisaient deux fois plus rapidement que le jeu sur PS3 et Xbox 360. Il y a eu ce problème là qui a été corrigé depuis, mais la version PC, je crois que le jeu a été corrigé quasiment à la juste après la sortie de, tu sais, la version First of the First
of the First Scene,
qui était ressorti en HD là, qui était ressorti sur PS4 et Xbox One. Donc si tu veux attendre un an en plus pour que tes armes s'usent beaucoup moins facilement, je pense que d'ici là t'as changé de jeu, quoi. Ensuite, il parle aussi des invocations. Donc, Dark Souls 3, ça sera toujours quasiment pareil que dans le même schéma classique qu'on avait connu dans les anciens Dark Souls. Sauf que voilà, cette fois-ci ils vont baser les regroupements de joueurs par rapport à leur niveau et plus par rapport au système d'âme, parce qu'avant en fait le jeu avait un système qui s'appelait la mémoire d'âme, et si tu avais par exemple tué 250 ennemis et t'avais gagné 1 million d'âmes, peu importe que tu les aies consommés ou pas, tu pouvais être au niveau 50 et l'autre il les a tous perdus, il était au niveau 20, et bah vous avez eu tous les deux obtenu dans le jeu 1 million d'âmes, et vous rencontrez, quoi. Donc ça veut dire qu'il peut avoir un écart de niveau qui était vraiment significatif entre le fait du joueur qui joue bien et le joueur qui joue moins bien, on va dire.
Alors ça, il me semble c'était Dark Souls 2, hein, parce que je crois que Dark Souls 1 c'est basé sur le niveau, justement, il me semble.
C'est basé sur le niveau. Juste après, au bout d'un moment, je crois que quand t'as dépassé les 2 millions d'âmes, un truc comme ça, là ils s'en foutent, quoi. Ils disent allez vas-y, tu peux. Si tu rencontres un mec niveau 700, toi t'es au niveau 200, on s'en fout. C'est plus notre problème.
Voilà. Bon, de toute façon, après le multi de Dark Souls, hein, le matchmaking entre guillemets, c'est toujours assez basique. Personnellement, je m'attends pas à des miracles à ce niveau-là, malheureusement.
Là, ils veulent quand même le matchmaking. Ils veulent faire la possibilité que jusqu'à 6 joueurs se jouent en même temps.
Ce qui est beaucoup plus que 3v3, quoi, en gros.
3v3, ou bien vous êtes assis pour aller péter la gueule d'un boss, mais là je trouve que c'est un petit peu abusé, quoi.
Alors faut vraiment augmenter la difficulté du boss, ou même faire des boss spéciaux pour ce genre de truc, mais voilà, quoi.
D'ailleurs, en parlant des boss, les boss pourront maintenant rentrer dans une rage. Ce qui va grosso modo changer leur palette d'attaque, ou bien te lancer un sort qui va te diminuer par le fait que tu récupères ton endurance beaucoup moins rapidement, ou bien que tu puisses pas te soigner, donc ça va vraiment ajouter de la difficulté, quoi.
Ok.
Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi à dire?
Il y a des secrets aussi qui ont changé.
Oui.
C'est-à-dire que dans Dark Souls 2, ils avaient ajouté une super feature en mode ah oui, maintenant pour découvrir des passages secrets, il faut que tu appuies tout le temps sur un bouton pour et que tu te colles au mur, tu vois. Et du coup, t'avais des mecs comme ça qui jouaient en se collant tout en mur, en appuyant sur un bouton pour essayer de découvrir un passage secret. Alors dans le premier Dark Souls, ça ne marchait pas comme ça. Il fallait faire une roulade. Ça faisait que du coup, tu sais, des fois, quand tu combattais, tu faisais une roulade et que tu découvrais par hasard un passage secret que tu connaissais pas, quoi.
Ça me rappelait surtout les premières expériences dans Demon's Souls et tout ça. Mm. Des fois, il y avait des messages de certains joueurs où ils te disaient vas-y saute ici dans le vide, t'inquiète pas. Et des fois, ça pouvait être un gros troll, comme ça pouvait être vrai. Et là, je pense que ça va vraiment remettre au goût du jour ces systèmes de messages que tu laisses par terre, du fait que dans Dark Souls, en fait, il y a plusieurs mondes qui sont connectés les uns aux autres, mais que tu vois les autres personnages qui jouent en ligne en même temps que toi, sous forme de fantômes, en fait. Et donc là, je pense que ça est... s'ils remettent vraiment des secrets bien cachés et que tu dois plus cliquer partout comme un gros teubé, bah ça va pouvoir remettre ce système-là sur le devant de la scène, quoi.
Alors, j'en entends déjà dire ouais, mais c'est naze, les trucs qui te spoil entre guillemets, ou sont cachés certaines salles et tout. Oh, non, je vous assure que il y a certains endroits, quand tu vois un message par terre et que tu découvres qu'il y a un sanctuaire qui est caché là, tu pleures et t'as envie de remercier le mec, quoi, parce que t'en as tellement chié. Je me rappelle notamment la forteresse où il faut aller pour accéder à Norlondo.
La forteresse de Seine.
Ouais, oh putain. Le sanctuaire de Lichefeu qui est là-dedans, il est planqué à un endroit. Mais je t'assure, j'ai pleuré à TH sur cette forteresse. Ah, pleuré.
Pourtant, moi, c'est une de mes zones préférées du jeu. C'était celle que j'ai testée le plus, je crois, c'est le hameau du crépuscule avec les enfoirés et la sarbacane qui t'empoisonne.
Ah ouais, non, mais moi aussi, celle-là aussi, elle est pas mal. Hein.
C'est vrai que, mais moi, j'ai bien aimé parce que justement, il y avait de la difficulté dans cette forteresse, en fait.
Si tu veux, ce qui m'a fait rager, c'est que j'étais arrivé tout en haut. Je suis mort et j'ai dû recommencer tout en bas. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient planqué le sanctuaire de Lichleu à un endroit, en fait, si vous voulez, où en fait il fallait sauter dans le vide. Et en fait, t'avais juste un balcon à ce moment-là, tu pouvais pas voir en fait avec la caméra. Et du coup, t'avais un message là comme ça d'un gars qui disait sauter. Et t'es là, tu sais, tu fais. Alors, est-ce que je saute ou Et là, tu découvres le sanctuaire et tu pleures quoi, parce que franchement, t'en as tellement chié pour arriver là que t'en pouvais plus quoi.
Bah surtout si t'as par exemple 1 million d'âmes et t'es au début du jeu, enfin t'as beaucoup d'âmes sur toi et tu vois sauter, tu dis attends, j'ai galéré pour monter jusque là, j'ai 1 million d'âmes. Si je saute, je perds toutes mes âmes parce que je rappelle qu'il faudrait que je revienne jusqu'à où je suis maintenant pour les récupérer.
Et parce qu'en plus, il faut savoir une chose, c'est sur ce passage-là, par exemple. T'as un mec qui te tire des, enfin c'est pas des boulets de canon mais c'est des boules
des
bombes,
des boulets de canon géants quoi.
Enfin c'est des bombes qui explosent, qui te tirent dans la gueule. Et donc t'as pas vraiment le temps de réfléchir quoi. En plus c'est ça le pire quoi. Enfin, c'est vraiment hyper sadique comme zone quoi. Bref, c'est pour vous expliquer que il y a vraiment des endroits où ça apporte quelque chose au gameplay, c'est-à-dire que tu te retrouves face à un truc. Tu dis, alors, est-ce que le joueur se fout de ma gueule et je vais crever, je vais devoir tout recommencer? Ou est-ce que c'est potentiellement un vrai passage vers un truc caché? Et là, je prends le risque de sauter et de me faciliter la vie plus tard, en fait. C'est ça le truc. Et franchement, t'as des choix cornéliens comme ça qui sont vraiment intéressants et qui résultent de l'interaction avec les autres joueurs, quoi. C'est vraiment super.
Et c'est là le fait que moi je considère pas du tout ça comme un spoil parce que tu sais jamais si c'est vrai ou pas en fait. Voilà. Donc c'est toi et ta chance et si le mec il a le mec à l'autre bout de l'internet s'il est généreux ou pas.
Bon après évidemment faut que ça soit fait intelligent, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit tout le temps des murs. Enfin voilà quoi, où tous les secrets soient cachés derrière un mur, il faut que ce soit bien planqué, tu vois, de manière à ce que le joueur doute et ait un risque, tu vois, à tenter de sauter quoi.
Ah mais des fois il y a des trucs qui sont vraiment bien cachés. Par exemple dans le premier Dark Souls, je sais pas si tu te rappelles du forgeron qui est caché dans le cimetière. Enfin si je sais pas si tu l'as trouvé ou pas. Mais pour le trouver il faut sauter dans le vide. Et enfin tu sais pas du tout où tu vas. Et après ça c'est dans le noir. Je rappelle que la zone est dans le noir. Il y a plein de... tu peux sauter dans tout le niveau si tu veux. Tu peux tomber dans le vide et tu meurs. Et là il y a un endroit d'un niveau où il faut que tu tombes dans le vide et pour trouver un forgeron qui est vraiment caché.
T'as un espèce de puits en fait où il faut sauter au fur et à mesure. Il y a des petites plateformes qu'il faut prendre. Enfin c'est vraiment un passage très sympa.
C'est
pas ce passage-là qui m'a posé problème, c'est justement quand tu sors juste de chez le forgeron après que t'as les squelettes roux là.
Et que ils m'ont bien pété la gueule aussi.
Les pires ennemis du jeu. Enfin bref, si on nous écoutait, nous à la TH, on parlerait encore 3 heures de Dark Souls. Donc
on va finir, on veut juste rappeler que le système de magie fait son retour aussi comme parce que dans Demon's Souls, on avait la magie qui était si tu veux avec une barre de mana. Des MP voilà qui utilisait au fur et à mesure. Alors que dans Dark Souls, c'était le sort était limité en nombre. Par exemple, tu avais 10 sorts de boules de feu. Alors que dans Demon's Souls, tu pouvais l'utiliser autant de fois que ta barre de mana était remplie. Et quand t'avais plus de mana, bah tu prenais une herbe qui te redonnait en fait du mana pour pouvoir les réutiliser. Je trouve ça, moi, plutôt bien le fait de nous laisser gérer comme on veut.
Moi, je trouve ça bien parce que honnêtement, le système de magie de Dark Souls, personnellement, il m'a jamais vraiment enthousiasmé. Hein, mais...
Il y a aussi, et non, pour finir sur la magie, c'est qu'ils veulent vraiment créer des sorts aussi magiques qui soient vraiment différents les uns des autres parce que dans les anciens Dark Souls et tout, il y avait beaucoup de sorts qui se ressemblaient et ça vaut aussi pour le système de combat. Maintenant, ils veulent vraiment que tu reconnais vraiment le système de combat encore, parce qu'avant c'était les armes qui faisaient vraiment que tu te battais de telle ou telle façon. Là, ils veulent vraiment changer ça pour donner un aspect beaucoup plus dynamique à la série.
Ok. Bon bah voilà. Ma foi, tout ça, c'est prometteur. Enfin, moi je trouve que, mis à part l'histoire de la téléportation là, j'ai très peur en fait qu'ils aient la flemme et que ça donne un résultat. Comme Dark Souls 2, quoi, on va dire. Bon, je pense qu'après, ils ont entendu les critiques de Dark Souls 2, mais quoi qu'il arrive, par contre, ça me pose un problème, en ce sens qu'on n'aura plus cette tension de se dire, putain, il n'y a pas de feu de camp à proximité, je suis super loin, enfin, ça va diminuer la tension, en fait, je trouve, et c'est dommage. Et ça réduira, en plus, l'intérêt des raccourcis, à moins que... À moins qu'il se la joue Bloodborne et que t'aies des chargements interminables et que du coup tu prennes les raccourcis parce que t'as pas envie de te taper un chargement.
c'est, voilà. C'est vraiment le truc le plus chiant. Mais sinon, je rappelle que c'est vraiment le réalisateur qui a fait Demon's Souls et Dark Souls qui revient sur sur Dark Souls 3. Ouais. Comme pour Bloodborne, il était là-dessus. Alors que dans Dark Souls 2, c'était une équipe annexe en fait. Toujours From Software, mais il dirigeait pas le jeu. Il était occupé à faire Bloodborne en fait.
Voilà. Bon, allez, on enchaîne. Mordren. Ouais. Sur un petit jeu qui s'appelle The Witcher 3, je crois.
Oui. Un petit jeu qui est tout à fait court, hein, durée de vie assez misérable, hein, bien sûr. voilà, vous le savez, ça a été annoncé il y a un certain temps déjà. CD Projekt Red a prévu plusieurs extensions pour The Witcher 3, et la première s'appelle Hearts of Stone, donc les cœurs de pierre.
Cœur de pierre.
Et on en sait un tout petit peu plus sur cette extension qui devrait durer déjà une dizaine d'heures, rien que ça, et qui se déroulera dans la région du No Man's Land et de Oxenfurt. Pour ceux à qui ça parle, moi ça me parle pas du tout puisque j'ai pas encore assez joué.
Non mais Mordren, arrête de jouer à Ark s'il te plaît. Joue à The Witcher 3.
Et on en sait surtout plus sur le système de cette extension, parce que est-ce que ça sera une extension pour level, est-ce que ce sera une extension qui apportera du contenu dès le début du jeu, etc. C'est une extension en fait qui apparaîtra à partir du niveau 30 en fait dans The Witcher 3. Donc voilà, c'est un système qui est relativement intéressant pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait joué au jeu comme moi.
Sachant que, juste précision ATH, le niveau que tu as, toi, quand tu as terminé le jeu, c'était combien ?
Si je dis pas de bêtises, j'étais niveau 35.
Ouais, donc voilà, c'est vers la fin du jeu quand même.
Donc c'est vers la fin du jeu, donc ça reste plutôt intéressant, c'est-à-dire que ça rapporte quand même du contenu. Pour les joueurs qui ont pas tout à fait fini le jeu, ça apporte aussi évidemment du contenu pour les gens qui ont décidé pourquoi pas d'y rejouer en New Game Plus. À savoir que évidemment le contenu de cette extension sera à échelle de difficulté pour le New Game Plus, évidemment. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce système d'extension qui apporte pas du contenu dès le début du jeu, c'est-à-dire que ce sont des quêtes que vous allez pouvoir faire au fil de l'eau une fois que vous avez quasiment terminé le jeu. Moi, ça me paraît être le bon compromis, en tout cas pour un jeu aussi long que The Witcher.
Ah, moi, je trouve que c'est la meilleure solution, en ce sens que ça contente tout le monde, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas commencé auront accès au contenu, quoi qu'il arrive, et les gens qui ont commencé ne se retrouveront pas dans la situation qu'un certain nombre de personnes ont eu avec certaines quêtes de The Witcher 3. C'est-à-dire que l'un des défauts de The Witcher 3, c'est qu'il y a des quêtes que tu ne peux pas faire au début du jeu, que tu délaisses, enfin, si tu avances trop dans le jeu, en fait, t'es trop haut level par rapport à la quête, et du coup, la quête est moins intéressante. Là, le fait que ce soit niveau 30, finalement, même si t'es à la fin du jeu, il y aura encore un intérêt à la faire en termes de gameplay, de système de combat, quoi, on va dire.
Ouais.
Donc, moi, je pense que de toute façon, il n'y avait pas le choix, parce que si ça avait été au début du jeu, en fait, les gens qui avaient quasiment terminé le jeu étaient baisés, quoi.
Ouais, ils l'auraient jamais fait.
Voilà.
À savoir que l'extension sort en octobre prochain. Donc, pour ceux qui auraient envie de se remettre à Witcher 3, c'est le moment.
Précision au passage, je vous incite, NPCistes, à regarder du côté des mods. Parce que, notamment, il y a eu plein d'ajouts récemment en termes de mods, notamment en termes de gameplay, qui rendent le jeu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile et intéressant, apparemment. Vraiment, je vous incite à regarder les mods, parce qu'il y a quelques petites choses, même si le système de modding de The Witcher 3 est assez limité, il y a vraiment des choses qui sont sympathiques, notamment le fait que maintenant, ils ont rajouté un système, par exemple, qui permet, avec les sens de sorceleur, de totalement se passer de la map, et en fait, quand tu actives tes sens de sorceleur, ça te dit dans quelle direction se trouve ton prochain objectif. Alors, ça remplacera jamais, évidemment, un vrai système conçu pour se passer des points d'intérêt, quoi, on va dire, mais c'est pas mal quand même. Bon, messieurs, rien d'autre à ajouter ou on peut passer à la suite ?
On peut y aller.
On peut y aller. Voilà.
Ah oui, si, une dernière chose, vivement la nouvelle romance. Parce que vraiment c'est la meilleure des rousses qui va arriver là, donc c'est super. non parce que c'est un personnage que j'apprécie vraiment en plus, enfin c'est celui que j'avais romancé. Je dis pas qui c'est pour ceux qui veulent se garder la surprise hein. Mais voilà, enfin vraiment c'est un personnage qui est super, moi j'adore. Voilà.
Bah tu seras obligé de payer l'extension alors.
Oh, de toute façon, c'est prévu depuis le départ. Hein. De toute façon, une extension, si tu veux, qui dure une dizaine d'heures, qui est pas vendue forcément excessivement cher, moi, je suis prêt à payer. Hein, c'est pas
parce que chose. L'extension, ouais, elle est, c'est 9,99€ seul. Et je rappelle aussi qu'il y a un coffret collector qui sera 19,99€ avec
Des cartes de Gwent.
Voilà. Honnêtement, moi, Osef, les cartes de Gwent, quoi, physiquement, ah bah, vrai.
Tu dis ça, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont acheter rien que pour les cartes de Gwent.
Hein. Ouais, mais bon, ben là, si tu veux, si j'achète des cartes de Gwent autour de moi, je vais jouer tout seul, quoi.
C'est clair.
Mais ils vont le sortir le Gwent hein, en vrai. Hein. Donc, faut voir si. Franchement, moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec un. En termes de jeu de cartes, il y a des choses à faire, je pense.
On verra voilà. Bien. On verra bien si la mayonnaise prend.
Donc, nous allons maintenant parler, messieurs dames, d'un jeu qui revient d'entre les morts, n'est-ce pas ? C'est Dragon's Dogma, dont la version Dark Horizon débarquera sur PC en janvier 2016. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le jeu, mais pourquoi j'ai voulu en parler ? Parce que quand même, c'est un jeu, si vous voulez, où il y a une relation un peu d'amour et de haine. C'est-à-dire qu'il y a certains gens qui l'adorent, il y en a d'autres qui le détestent. Qu'il déteste pourquoi ? Parce que son histoire est nulle à chier, de ce que j'ai compris. Qu'il le déteste aussi parce que c'est un jeu qui a été assez moche quand même apparemment sur PlayStation 3.
Très très moche.
Par contre, c'est un jeu qui est très aimé parce qu'apparemment il a plein d'idées en termes de gameplay, notamment système de pions, je crois qui est très populaire, et même par rapport à tout ce qui est chasse, etc. Enfin, apparemment, c'est très intéressant. Donc moi, je suis curieux de l'essayer, et je suis d'autant plus curieux de l'essayer que, normalement, cette version, quand même, permettra d'avoir normalement un jeu à peu près propre. Je dis bien normalement, parce qu'on connaît la qualité des portages japonais sur PC, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai voulu parler de cette news aussi, c'est Capcom, s'il vous plaît, ne faites pas la connerie de pas mal de vos collègues, faites un portage à peu près propre, s'il vous plaît.
Bah, si t'as vu le portage de Resident Evil 6 de Capcom, moi je pense que tu devrais te méfier un petit peu. mais moi.
Après, Street Fighter est pas mal hein, en termes de portage, mais bon, Street Fighter, je veux dire, il n'y a pas non plus un truc affiché à l'écran, donc voilà.
Mais enfin moi, je peux en parler vite fait. Pourquoi j'ai pas trop aimé le jeu, quoi. C'était déjà l'histoire au début. Apparemment, c'est un dragon qui vole le cœur de notre personnage qu'on crée. C'est un avatar. Et donc il faut aller récupérer notre cœur en allant lui taper sur la gueule gentiment. Et il y avait un truc que j'avais trouvé sympa quand même. C'était ça me rappelait un peu les combats de Shadow of the Colossus où l'effet où tu t'affrontais vraiment des monstres assez immenses et tout. Et tu par exemple, au bout d'un moment j'ai affronté un griffon. Et comme il vole et tout ça, je pouvais pas trop l'attaquer à distance, à part si t'avais des flèches ou tu pouvais lui envoyer des flèches pour qu'il commence à s'énerver et te foncer dessus. Et là, ce que j'ai fait avec mon personnage, c'est que je me suis agrippé à ses plumes et en m'agrippant, je suis allé jusqu'à sa tête pour lui mettre des coups d'épée pour le faire tomber et puis essayer de le combattre au sol. Et ça fait ça avec les ennemis qui sont vraiment balèzes. Sauf que le jeu, en fait, j'ai trouvé que déjà le début, il met longtemps à se mettre en route et il y avait des quêtes à la con, genre va me chercher ci, va me chercher ça, tu vois, le village est, c'est un village genre, il est totalement vide en fait, et ça fait vraiment petit village, tu sais, avec les quêtes FedEx à la con, va me chercher des
remplissage quoi.
Voilà. Et apparemment, c'est l'extension Dark Horizon qui corrige le tir et qui est vraiment bien, mais il faut déjà avoir pas mal avancé dans le jeu de base. De ce que j'ai compris, pour y accéder. Donc j'ai joué un petit peu et puis ça m'a saoulé et j'ai lâché la manette, quoi.
Voilà. Oh, bon. En tout cas, pour ceux qui étaient intéressés par le jeu mais qui ne voulaient pas acheter une console pour ça, c'est une bonne nouvelle. On croise juste les doigts pour que voilà, ça soit correct en termes de portage. Bon, messieurs, alors on va passer au sujet polémique de la semaine, n'est-ce pas ? On va reparler de YouTube cette semaine et on va commencer juste vite fait par Nintendo. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la politique absolument calamiteuse de Nintendo par rapport à YouTube, en gros, tu ne peux pas publier des vidéos de jeux Nintendo, enfin, sauf si tu veux te faire pourrir ta chaîne, hein, voilà. Ils ont un système de programme apparemment qui fait que si tu es partenaire avec eux, tu peux publier des vidéos, mais évidemment, ils ponctionnent une partie de tes revenus, ce genre de choses. Donc évidemment, y a aucun YouTuber un temps soit un peu sérieux qui n'accepte, hein, n'est-ce pas? Parce que déjà, un, ça grille ta réputation. Deux, pourquoi Nintendo prendrait une partie des revenus? Est-ce que Nintendo prend une partie des revenus des magazines spécialisés? Je ne pense pas. Enfin voilà, c'est très curieux. Mais par contre, cette semaine, Nintendo a atteint de nouveaux sommets dans la connerie, n'est-ce pas? Puisque ils ont fait effacer la chaîne d'un speedrunner.
D'accord. Ok.
Ok. Un speedrunner. Alors, c'est quoi la prochaine étape Nintendo? Vous allez attaquer la Summer Games Done Quick en justice parce que c'est un marathon caritatif où il y a des jeux Nintendo. Non, parce qu'on en est là. Hein, finalement, c'est la prochaine étape. Hein, je veux dire. Enfin voilà. Ce qui s'est passé du coup, donc, c'est que il y a un speedrunner qui s'est fait supprimer sa chaîne. Où il y avait des centaines de vidéos dessus, et pas que de jeux de Nintendo, forcément. Donc, voilà, merci Nintendo. Enfin, c'est top, hein. Déjà pour votre image, c'est top. Vous avez bousillé la chaîne d'un mec, qui fait du speedrun. Enfin, je vois là, en plus, un mec, bon,
Non, mais surtout que le mec, il a passé, parce qu'il a passé 2 ans, sur un niveau pour essayer de le speedrunner le plus rapidement possible, et Nintendo lui ferme la page, enfin, lui ferme sa chaîne YouTube comme ça. Et il y a aussi Nintendo avait, il y a pas longtemps aussi, je me rappelle, ils avaient atteint des sommets de débilité quand même assez énormes. Ils avaient attaqué des fans en justice parce qu'ils avaient souhaité faire une soirée Pokémon, et les mecs ont mangé un procès, quoi.
Ouais, parce qu'apparemment, donc, ils avaient vendu des tickets. Ouais. Genre, tu vois, les tickets, ça va leur apporter un truc de ouf, enfin, de l'argent, un truc de malade. Et donc, ils sont pris un procès.
Voilà.
Enfin, je sais pas, est-ce que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui réfléchit chez les marketeurs Nintendo, ils sont juste idiots. Enfin, quoi que pour le coup, je suis pas sûr que ça vient des marketeurs, je pense que ça vient des avocats, mais, enfin, c'est pareil, à un moment donné, il faut que le département marketing, ils disent, les mecs, c'est stupide. c'est la pire idée à la con que tu puisses avoir, quoi. Enfin, en fait, moi, j'ai l'impression que Nintendo, ils ne comprennent juste pas, la communication aujourd'hui, quoi. Enfin, je veux dire, si t'es grillé auprès des YouTubers aujourd'hui, c'est chaud, quoi. Parce que c'est quand même un vecteur de communication qui est assez important. Surtout que là, en plus, c'est pas genre, tu vois, un YouTuber comme ceux dont on va parler ensuite, là, qui sont, pour le coup, assez suspects. Enfin, c'est des mecs c'est un speedrunner, quoi, putain, un speedrunner.
Ouais,
enfin, bref.
Dans l'idée, le mec, c'est un fan de Nintendo, quoi. S'il fait ça sur des jeux Nintendo, c'est que, voilà, c'est un fan, il aime ça, enfin... Son but, c'est de, ça fait que de la pub pour Nintendo de faire ça, donc,
c'est clair.
Surtout des
jeux qui sont même plus exploités par Nintendo aujourd'hui.
Si, ils ont exploité, parce que t'inquiète pas, sur la console virtuelle, pour te vendre les Mario à $5, là.
Oui, non, mais je veux dire, comparé à ce que rapporte un jeu récent, c'est négligeable, quoi. Enfin, faut arrêter le délire, quoi. C'est complètement idiot. Et justement, tu vois, le fait de voir un speedrunner jouer à ces jeux, mais c'est typiquement le truc qui peut inciter un mec à jouer au jeu sur la console virtuelle, quoi.
Totalement, ouais.
Il va falloir m'expliquer en quoi les revenus de ce speedrunner étaient gênants pour la trésorerie de Nintendo, parce qu'en général les speedrunners c'est quand même assez niche, c'est pas ça qui va faire 4 milliards de vues, tu vois. Donc c'est moi, en fait, c'est ce que je vous disais en antenne tout à l'heure, c'est que à mon avis cette politique là est issue d'un protectionnisme à outrance de Nintendo, parce qu'ils se sentent mal en fait sur le marché actuellement. On n'a jamais vu ça à l'époque où ils étaient hyper dominateurs avec la Wii, quoi. Ça n'existait pas. Et ça, c'est, j'en suis persuadé, c'est parce qu'ils sont, à mon avis, ils doivent être très très proches de, pour protéger leurs petits sous-sous, ils doivent se dire, la Wii U est pas assez rentable, il faut absolument qu'on protège nos sous sur les autres vecteurs de communication que sont YouTube et autres, et on en est là, quoi. Et ça me fait très peur pour le futur des réseaux sociaux de Nintendo, quoi. Enfin, de l'utilisation des jeux vidéo. Parce que la prochaine console de Nintendo, du coup, Comment voulez-vous que les youtubeurs en fassent la promotion entre guillemets? Comment voulez-vous que les youtubeurs se disent putain la nouvelle console de Nintendo elle a l'air trop cool, il faut absolument que je l'achète pour en faire des let's play pour ma communauté? Ben non, avec tous ces trucs là je suis désolé, les youtubeurs ils vont se dire ah ouais mais non, non parce Nintendo que derrière et ils vont, plus, ils vont me taxer quoi.
Ce que ça veut dire c'est que si tu fais des vidéos Nintendo, ça veut dire que tu as l'accord de Nintendo.
Ouais.
Donc ça veut dire que tu es assujetti à Nintendo. Mmh. Donc comment veux-tu qu'un mec qui regarde ta chaîne te prenne au sérieux?
Ouais. Ah non, tout simplement. Voilà. Mais non, mais pour moi, ils sont en train de se cramer à long terme sur YouTube, quoi.
Nintendo, ils ont quand même envoyé un petit mail sympa à ce speedrunner, c'est que je vais vous lire le mail tout simplement. Nous aimerions vous laisser savoir que les vidéos en question enfreignent les droits d'auteur de Nintendo. En tant que possesseur des droits de ces jeux, Mario Kart 8, Super Mario World et Pokémon, Nintendo a le droit exclusif de jouer à ces jeux publiquement ou de créer des travaux dérivés basés sur ces jeux. En réalisant des travaux utilisant des licences Nintendo et en diffusant des licences Nintendo sur votre page YouTube, vous avez violé les droits exclusifs de Nintendo. Et suite à ça, donc ils ont dit que ils étaient conscients que c'était grâce aux fans que la société est là où est-ce qu'ils sont, mais ils ont quand même rétorqué que les propriétés intellectuelles prévalent sur tout le reste en fait. Donc voilà la mentalité Nintendo et ils ont demandé à ce speedrunner que s'il souhaitait faire des vidéos concernant des jeux Nintendo, il devait intégrer le programme Nintendo Creator Program afin d'utiliser les franchises de Nintendo.
Bah déjà, imaginons, ils veulent mettre en place cette politique. Tu contactes le speedrunner avant de supprimer sa chaîne. Enfin, je sais pas.
Bien
enfin,
sûr.
Ne serait-ce que ça, tu vois, c'est...
Tu le mets pas devant le fait accompli, quoi.
Bah voilà. Alors, on t'a supprimé ta chaîne, mais si tu veux bosser avec nous...
Bah après, c'est peut-être encore pire, parce que du coup, en fait, t'imagines si Nintendo avait fait ça, lui envoyer un mail en disant « Bon, par contre, dans une semaine, on va supprimer ta chaîne, donc si tu veux garder tes vidéos et ta chaîne... »
Ouais, c'est un peu du chantage, ouais.
Non, mais j'ai pas dit ça, attention. Ouais. Écoutez... nous, on veut bien que vous fassiez. Déjà, tu présentes pas ça comme ça, si tu veux. Tu dis,
ouais.
Nous, on veut bien que vous fassiez des vidéos, mais vous rejoignez notre programme Nintendo, enfin le programme Nintendo, quoi. Voilà. Et après, éventuellement, effectivement, tu supprimes, quoi. Mais enfin, il y a des manières de faire les choses. Après, je dis pas que c'est une manière honnête, etc. Mais ne serait-ce que tu serais dans une logique où tu veux des partenaires, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre déjà à la base. Alors après, on est d'accord, c'est totalement débile quoi qu'il arrive, mais voilà. Dans tous les cas, ça illustre encore une fois ce qu'on disait dans notre dernier numéro, à savoir que maintenant le copyright est utilisé comme une arme, voilà. Et du coup, ça crée certains comportements, enfin, notamment chez certains youtubeurs qui se croient trop permis et qui se prennent pour des publicitaires et qui évidemment n'en parleront pas, hein. Donc, on va vous parler de certains youtubeurs cette semaine qui ont contacté un studio et qui, je crois, Ben, ont fait une proposition assez curieuse.
Ah, c'est honnête, on peut le dire. Hein.
C'est le studio qui a contacté ces youtubeurs pour leur envoyer un code gratos, en fait.
Ouais, à l'origine, c'est parti de là. Donc, le studio leur a dit, si vous voulez, c'est un studio qui fait des jeux un peu indé. Donc, c'est pas un gros studio qui a envoyé à des youtubeurs en disant, on vous offre en gros la licence du jeu pour le tester, pour faire parler. Donc, du coup, exactement l'intérêt de YouTube de faire de la pub, quoi. Pour en revenir là. Et sauf que, bah, parmi ces youtubeurs, il y en a notamment un, donc là, le nom est pas cité, mais qui a priori est très connu avec énormément d'abonnés, qui a dit, OK, moi, je veux bien le faire, mais vous me donnez de l'argent. Et 22 000 $. Juste ça. Donc bon après voilà, on a l'effet inverse de l'intérêt de YouTube. Alors le studio, le petit studio qui dit gentiment bon pour se faire de la pub bien sûr, je vais vous envoyer des licences, vous en faites ce que vous en voulez entre guillemets, ils leur ont pas dit je vous donne une licence gratuite si vous me faites une bonne communication. C'est juste si vous voulez je vous file mon jeu pour le tester et puis pour faire parler de nous quoi.
Non mais honnêtement n'importe quel AD aujourd'hui envoie des milliers de codes à plein de youtubeurs, y compris des youtubeurs qui ont 1 million de vues. Regardez Chocapic à Quartz. Le docteur Chocapic, sa chaîne fait un petit millier de vues, enfin chaque vidéo fait quelques milliers de vues quoi, c'est pas grand chose, et pourtant bon, après c'est vrai qu'il est un peu connu dans le milieu, mais il a plein de...
Oh bah je pense qu'il paye pas beaucoup
de jeux. Il teste plein de jeux, il reçoit plein de jeux gratuitement quoi.
Ah oui, voilà. Bien
sûr. Et il y a plein de petits youtubeurs qui critiquent.
Voilà.
Oui, et après, il y a plein de petits youtubeurs
qui reçoivent... Non mais, je veux dire, c'est... c'est normal, enfin dans le milieu, t'as plein de petits youtubeurs qui reçoivent des codes gratuits, c'est ce que font tous les studios. Bah,
c'est ce qu'on disait, c'est
pour, dans se disant que j'investis, tu vois, je donne des jeux gratuitement à des mecs qui ont un tout petit peu de visibilité, parce que un tout petit peu plus, ça fait beaucoup de visibilité.
Oui,
voilà.
C'est ce qu'on disait, c'est aujourd'hui, si les marketeurs des studios de jeux vidéo font pas ça, enfin, notamment, en plus, là, c'est des petits studios, dont on connaît pas forcément les jeux. Enfin, c'est énorme pour eux de pouvoir faire ça, de pouvoir filer des licences à des youtubeurs et que ça parle et que voilà, enfin.
Alors, après, entendons-nous bien. Moi, quand un youtubeur dise, je pars de ton jeu si tu me donnes $22,000, bon. Fondamentalement, je trouve ça stupide, parce que, enfin, ça veut dire qu'en tout cas, éditorialement, sa chaîne, c'est pas top, hein, parce que ça veut dire qu'en gros, tous les petits studios qui ont un jeu intéressant, mais, qui peuvent pas se payer ses services, voilà, allez vous faire foutre. Déjà. Bon, non, déjà, sa chaîne, elle est pas intéressante. À la base, bon, déjà, ça pose un petit souci, mais là où ça me pose vraiment un souci, parce qu'à la limite que sa chaîne soit merdique, c'est son problème, là où c'est déjà plus problématique, c'est quand tu te dis que, s'il demande $22,000 comme ça, c'est qu'il le dit pas. Enfin, c'est marqué nulle part. Enfin, je veux dire, voilà. Ça, c'est des mecs qui sont payés leur silence, quoi, en gros, voilà. Tu me donnes $22,000, je te fais de la publicité gratuite. Ah bah, enfin, gratuite. Pour le coup, non, mais je te fais une publicité en mode, oh ouais, ce jeu, il a l'air trop cool, enfin, voilà, quoi.
Oui. Et puis, si ce youtubeur fait ça, c'est que ça doit déjà un peu se faire dans le milieu aussi, il faut pas rêver, quoi. Il fait pas ça par hasard.
Non, mais ça c'est connu, hein.
Oui, bien sûr,
on l'a déjà fait aussi.
Ah oui.
On en a parlé de la semaine dernière, je veux dire, c'est
ouais, bien sûr.
T'as la Federal Trade Commission qui s'en est mêlé récemment, enfin ça rigole pas là, hein, parce que normalement une publicité comme ça, tu dois le dire,
oui,
ça doit être marqué.
Tu dois le déclarer.
Il y a eu c'était dans l'étolier où CAF parlait de ça, et parce que lui il travaillait pour un studio suédois, je crois, pour la communication, et bah justement lui il avait contacté PewDiePie pour lui proposer de faire le jeu, et il a dit que c'était $22,000 comme exactement cette annonce là pour qu'il en parle du jeu, quoi. Et c'était quasiment, donc là il a cité vraiment le youtubeur. Et en parlant, donc là, je serais pas étonné de savoir que ce soit lui ou bien quelqu'un d'autre comme ça, mais ça se fait déjà avant. Et voilà, moi, ça me choque même plus aujourd'hui, quoi.
Mais enfin, moi, en fait,
je trouve ça scandaleux. Mais
non. Mais moi, ce qui me dérange, si tu veux, c'est que même au-delà du fait que de toute façon, ça sera caché, parce que c'est bien le problème actuellement. Moi, c'est vraiment le souci qui ça me pose. C'est les mecs font de la publicité et ne le disent pas. Encore une fois, enfin, moi je sais pas, Morgan, est-ce que tu trouves pas que toi qui es youtubeur, justement, éditorialement, c'est pauvre, quoi. Enfin, ça veut dire qu'en gros, quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas apparaître sur la chaîne d'un youtubeur, et du coup, ça réduit drastiquement le champ des possibles par rapport à la chaîne, quoi, en plus.
Ouais, moi je pense qu'il y a deux. À mon avis, il y a deux choses. C'est quoi qu'il arrive, il y a des jeux dont ce youtubeur va forcément parler. Donc ça, c'est des gros jeux en général. Mm-hmm. C'est des triple A, c'est des trucs qui, admettons, hein, que peut-être ce mec ait la capacité d'aimer lui-même un jeu. C'est peut-être, hein, ça arrive. Ça aussi, ça apparaîtra sur sa chaîne. Et il y a autre chose. Le deuxième truc, c'est qui pourrait apparaître sur sa chaîne, du coup, c'est quelque chose qui serait donc payé, puisque lui, de toute façon, n'a pas l'intention d'en parler, soit parce que ça l'intéresse pas, soit parce qu'il n'en dégagera pas des vues. Et alors, à ce moment-là, pour avoir le différentiel d'argent sur un truc qui va pas avoir de vues, eh ben, il va faire payer le développeur qui veut faire parler de son jeu. Là, encore une fois, j'en ai parlé la semaine dernière, mais pour moi, ça, c'est pas une logique de passionné, c'est une logique d'entrepreneur. Ouais. C'est pas une logique éditoriale, c'est une logique de patron
de bénéfice
d'une entreprise, c'est une logique de bénéfice. Et pour moi, ça, c'est pas une logique d'utilisation,
c'est des gens qui n'aiment pas le jeu vidéo, quoi, tout simplement, faut dire ce qu'il
y a. Oui, c'est des gens pour qui peut-être aimaient le jeu vidéo, mais pour qui aujourd'hui c'est devenu un métier et qui réfléchissent plus de la même façon, quoi.
Non, mais même, tu peux faire un métier et aimer ce que tu fais, c'est
oui,
pas
non,
le souci.
Oui, non, je suis d'accord.
Si tu veux, c'est, comme Mandrin, c'est, il y a une différence entre faire un métier et être entrepreneur. Tu vois,
ouais.
dans l'un des deux cas, t'es vraiment là pour faire de l'argent.
Mm-hmm.
Alors je dis pas attention que l'argent c'est mal, machin. Enfin voilà, non, c'est pas le sujet. Mais quand l'argent devient la raison principale de ton activité, en termes déjà d'honnêteté vis-à-vis de ton de tes viewers et en plus en termes de ce que ça apporte aux médias, voilà, enfin c'est.
Non mais de toute façon mec, il demande 22 000 $ quoi, il se touche un petit peu la nouille pour une vidéo de 5 minutes, c'est un connard et puis c'est tout. Genre...
Moi je pense que, non mais après le truc c'est que ça a beau être quelque chose qui n'est pas un choix éditorial, à partir du moment où t'as je sais pas plusieurs millions de d'abonnés, quoi qu'il arrive t'auras au moins 10% de ces gens qui vont regarder ta vidéo.
Ouais.
Et donc c'est ça que recherche le communicant. Mmh. Ce que je voulais dire tout à l'heure en fait c'est pourquoi... À mon avis, ils sont pas plus bêtes que les autres, ces youtubeurs-là. À mon avis,
ah non, ils sont même très intelligents de manière entrepreneuriale. Hein,
à mon avis, d'un point de vue purement entrepreneurial, je suis sûr qu'ils sont, ils sont tout à fait conscients que ce métier entre guillemets va pas durer, qu'ils sont en haut de la vague pour on va dire quelques années encore. Et après, la mode des youtubeurs va forcément s'effacer, et du coup, ils sont dans une logique un petit peu comme les footballeurs qui vont avoir une carrière très très courte, mais qui vont gagner beaucoup beaucoup d'argent d'un coup. Les youtubeurs vont essayer de rentabiliser énormément tout ce qu'ils font, non seulement avec les revenus de la pub, les revenus de la monétisation de leurs vidéos. Et en plus, en dégageant des partenariats, en dégageant des sponsors, en dégageant de l'argent pour de la publicité, on va dire cachée.
Hey, et Marwan, t'imagines le comble de l'ironie, le mec a un Tipeee ou un Patreon.
Ah non, mais ce serait même pas surprenant. Ce serait même pas surprenant. Et donc, moi, je pense que oui, ils sont tout à fait conscients de ça, et c'est à mon avis pour ça qu'ils se permettent ce genre de choses, parce que, à mon avis, ils savent qu'ils vont pas durer. Et c'est le truc, c'est c'est le serpent qui se mord la queue. C'est en faisant des choix pareils.
Ça peut pas durer.
Ça peut pas durer. Tu peux pas avoir une chaîne qui dure sur le long terme de façon, éditorialement pérenne, en faisant des choix pareils. À mon avis, c'est du cash rapide, parce qu'ils ont peur de plus vivre de leur passion entre guillemets encore très longtemps quoi.
Bon, Mordren,
oui,
tu vas nous parler du plus gros trailer bullshit que j'ai jamais vu. C'est le trailer de Pokémon Go.
Pokémon. Alors en effet, c'est un trailer qui est très très bien fait au demeurant. Hein. C'est une énorme, enfin une publicité assez magnifique.
Ah oui, publicitairement c'est.
Le trailer est superbe.
Ça vend du rêve.
Au demeurant, ça vend du rêve. C'est Pokémon Go, c'est le nouveau jeu Pokémon. Parce qu'à savoir quand même que cette année, on ne nous a pas annoncé un seul Pokémon canonique, pas un seul RPG Pokémon, alors que d'habitude, au Japon, ça sort à peu près en novembre, et nous, on peut l'avoir à peu près 2 mois plus tard. Donc c'est voilà. J'ai posé la question à un collègue il y a pas longtemps en lui disant mais il est où le nouveau Pokémon en fait ? C'est genre on nous l'a pas annoncé. Eh ben ça y est, le nouveau Pokémon s'appelle Pokémon Go, et il ne s'agit pas d'un jeu Pokémon sur console portable, mais d'un jeu Pokémon sur Android et iPhone. Donc c'est un jeu sur téléphone portable, c'est plutôt une application qu'un jeu, puisqu'il s'agit en fait d'un jeu inspiré de l'application qui s'appelle Ingress, qui était développée par un studio qui était rattaché à Google qui s'appelle Niantic Games. Niantic, d'ailleurs.
Quel est le principe ?
Alors, principe d'Ingress, c'est assez compliqué. En fait, c'est un jeu qui mêle la réalité augmentée et la géolocalisation. C'est-à-dire que sur ton téléphone, en fait, quand t'arrives sur Ingress, l'application va te dire dans les 200 mètres, a priori, tu vas avoir un point d'intérêt. Tu te rends à ce point d'intérêt-là, en fait, et tu peux collecter des objets qui sont assez étranges quand tu regardes le trailer de l'application. Et en fait, l'idée, c'est que tu as deux factions dans Ingress, dont le nom m'échappe là tout de suite, mais qui vont évidemment se tirer la bourre en fait, puisque tu vas avoir un système de quartiers. Dans ces quartiers, si telle faction a plus d'objets que l'autre faction, elle devient maître du quartier. Donc c'est l'idée d'Ingress dans un monde. Enfin, en gros, ça te fait. Ça part sur une mythologie un petit peu de hacking et de renseignements assez étranges dans un monde de science-fiction un petit peu étonnant. Donc ça c'est Ingress, donc qui a été développé par Niantic, qui était donc un studio de développement relié à Google, qui ne l'est plus maintenant. Niantic maintenant est responsable du développement de Pokémon Go. Et va utiliser un certain nombre de features qui étaient déjà dans Ingress, donc la géolocalisation et la réalité augmentée.
Alors sachant que quand tu dis réalité augmentée, j'ai des Pokémon qui vont popper sur mon téléphone avec le décor de la rue là, ou comme dans la vidéo là, ou.
Alors, en tout cas, c'est ce que la publicité nous laisse croire. Pour l'instant,
j'ai comme un doute bizarrement, mais
pour l'instant, évidemment, on n'a pas vu dans les faits à quoi ressemblera l'application. Parce donc que tout est magnifique dans ce trailer, mais
je précise, la seule image qu'on a vue de l'application, c'est un téléphone où tu vois une image de Pokémon classique avec un décor de verdure.
C'est vrai.
Voilà, c'est tout.
C'est Pikachu.
T'as pas vu de truc où tu vois t'as le téléphone qui utilise la caméra, par exemple, imaginons, hein, pour prendre une image, tu vois, et mettre le Pokémon ou ce genre de truc. Hein. Ça, on n'a pas vu, pas.
Moi, j'ai vu un Pikachu sur un fond vert qui se faisait capturer par une Pokéball. Mais c'est tout.
C'est vrai. Donc, alors, en tout cas, sur le principe de ce qu'on nous présente dans ce trailer de 3 minutes, c'est... en gros, vous baladez avec votre iPhone ou votre appareil Android, l'application va vous dire « Attention, il y a un Pokémon sauvage à 200 mètres de toi. » Il va te dire exactement où il est. Et donc, tu te rends à cet endroit-là, tu vas découvrir ce Pokémon, tu vas ensuite avoir donc la possibilité de le capturer. Donc ça, c'est évidemment la feature de base de tout Pokémon. Ensuite, tu auras évidemment, l'application qui va te dire, voilà, t'as un dresseur à côté de toi, est-ce que tu veux combattre avec lui? Donc ça, encore une fois, c'est tout à fait classique et c'est, vous le connaissez évidemment si vous jouez au jeu Pokémon sur 3DS, ça c'était déjà présent avec la Global Combat Station. Donc c'était un système simplement de Bluetooth en fait, tu l'activais sur ta 3DS et puis il reconnaissait s'il y avait des gens à côté de toi qui avaient le jeu Pokémon branché et donc tu pouvais les provoquer en duel. Donc là c'est exactement le même principe.
Cela dit, là quand même où ça apporte un supplément, j'ai envie de dire, par rapport à ça, c'est que une 3DS, tu ne l'as pas tout le temps allumée.
Exactement.
Alors qu'un téléphone, quand même, c'est un appareil.
C'est clair.
Qu'a priori, comme ça, tu as sur toi, que tu consultes quand t'es dans le métro. Bon, sauf si comme moi t'es dans le 93, où là tu gardes planqué, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent en fait. Et donc du coup, je pense que en termes de fréquence de match, etc., enfin ça peut vraiment créer une dynamique que tu n'as pas avec une console portable pour le coup.
Et il y a une autre dynamique assez intéressante aussi qui consiste à unir entre guillemets les dresseurs qui sont dans un même endroit, c'est-à-dire que de temps en temps tu auras un énorme Pokémon, on va dire légendaire. Donc là dans le trailer, l'exemple était Mewtwo. L'idée c'est que tu ne peux pas le battre tout seul, donc il va falloir agréger un petit peu les dresseurs qui sont autour de toi pour combattre en même temps ce Mewtwo et ainsi le capturer. J'imagine qu'il faut quand même pas 50 000 personnes pour dresser Mewtwo, j'espère pas, parce que sinon ça va être un peu compliqué comme système, mais ça peut être assez intéressant.
En tout cas, dans le trailer, il y avait tout New York hein, pour capturer Mewtwo.
Dans le trailer, t'avais tout, comment elle s'appelle cette place
Times Square, non
ouais. Voilà, t'avais tout Times Square qui dressait Mewtwo. Donc, bon, encore une fois, il est très joli ce trailer, hein, mais bon, ça donne pas la réalité du jeu, en tout cas, je l'espère pas.
Ah, peut-être dans 30 ans, on aura ça, hein, mais voilà, c'est un peu vieux, nous, déjà.
Et sinon, il y avait, concernant le fait que ça sorte sur iPhone et sur Android, il y avait l'espèce de petite montre, là, toute dégueulasse, hein,
oui.
Que tu donnes à ton gosse, et que parce que lui le gosse normalement on n'est pas censé avoir un iPhone, donc Nintendo a eu l'idée de sortir cette montre Pokémon en bracelet et qui est connectée à ton smartphone, et en gros dès que ta montre va vibrer tu devras casser les couilles à ton père ou à ta mère pour lui dire attends il y a un Pokémon là, faut qu'on le capture, et j'espère que ça va pas clignoter tous les 5 minutes, parce qu'au bout d'un moment je pense que le parent va mettre une petite gif à son fils, parce que là
en même temps c'est toi qui as acheté le truc,
c'est clair.
Ouais, non mais bon, c'est, tu vois, parce que tu vas dire bon, je vais pas lui acheter un iPhone pour qu'il joue à ça, tu vas lui acheter le petit bracelet à la con, mais s'il vibre tous les 10 secondes au bout d'un moment ça va faire un petit peu chier, quoi.
Donc dans tous les cas, Mandren, toi qui es fan de Pokémon, est-ce que ça te fait envie tout ça?
Bah écoutez, si vous écoutez régulièrement les podcasts depuis longtemps, je pense que vous m'avez déjà entendu parler de ce genre de concept pour un Pokémon. Mmh. À l'époque, je crois que ça devait être au moment de l'annonce de la 3DS, mmh, où je disais putain, bah, de la réalité augmentée sur 3DS, il faut absolument qu'il fasse un jeu Pokémon avec ça. Et ben voilà, ça y est, il est enfin là, a priori, ce jeu Pokémon. Bon. Évidemment, j'attends de voir dans les faits à quoi ressemblera la réalité augmentée de ce jeu Pokémon Go. J'ai quand même de sérieux doutes vis-à-vis de ce trailer. On verra. En tout cas, le concept est là, évidemment. Bon, par contre, à mon avis, il va falloir un sérieux appareil pour faire tourner un truc comme ça, si c'est véritablement de la réalité augmentée avec des Pokémon dedans. Donc il va pas falloir un petit 3310, à mon avis. Mais
moi j'y crois pas une seconde, hein, très sérieusement, hein, parce qu'il faut que ça tourne sur un maximum de machines possibles.
Ouais.
Jamais t'auras de la vraie réalité augmentée. Attendez 10 ans peut-être, hein, mais
ouais,
pas aujourd'hui.
Moi,
hein.
Mais moi je sens bien le truc tout pourri, tu sais, comme le truc qui était sorti sur PSP là avec les cartes.
Invisibles.
Ouais, Invisibles, ça. Je sens bien le truc comme ça, parce que déjà l'application est gratuite. Après, ouais, il y a le modèle économique qui a pas été détaillé. Mais
ouais, bah ça, c'est, tu vois, c'est la question que je me pose.
Il y aura des achats
voilà,
à l'intérieur.
Il y a des achats in-app, ça c'est sûr, c'est, mais ils ont pas dit quoi exactement, comme d'habitude. Mais bon, je pense pas un truc.
Tu vas pouvoir acheter des Pokéballs, à mon avis, genre des Master Balls, des trucs comme ça, tu vois.
La Master Ball à 99€.
Comme tu ça, peux la cloner à ce prix-là, ou comment ça se passe?
Ça serait bien, par contre, parce que sur les anciennes versions de Pokémon Game Boy, tu pouvais cloner les objets. Je pense pas que là, l'option, s'ils trouvent le bug, ils vont le corriger très vite.
Donc en tout cas, oui, moi je suis curieux, évidemment. Je pense que c'est une application que je vais probablement télécharger un de ces quatre. Après, il faut voir comment ça se joue, si ça peut supplanter ou pas un jeu Pokémon. Ça m'étonnerait très fortement, mais ça peut être sympa. À mon avis, c'est un petit jeu que tu vas télécharger, auquel tu joueras de temps en temps, et puis ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. J'espère simplement que ça va pas supplanter les vrais jeux Pokémon, quoi.
En tout cas, j'ai hâte de voir Mandren expliquer à son boulot qu'il arrive en retard. J'avais un Pokémon à capturer là dans le métro, du coup j'ai raté la rame.
Il y avait un Ronflex qui me bloquait le passage, j'avais pas la Pokéflûte. Je ne pouvais pas avancer.
Ouais, ça risque pas, hein. J'arrive même pas à choper la 4G dans le métro, donc bon.
Tu pourras sortir ça comme excuse au moins.
Non, mais ça peut être une bonne excuse pour se balader d'ailleurs dans Paris.
Ouais. Mais bon, après.
Et ça, tu vois, pour le coup, honnêtement, j'y crois pas plus que ça, parce qu'à mon avis, les gens sont des flemmards en vrai, et que...
Oui.
En fait, pour moi, c'est le plus gros obstacle au truc, c'est que je pense que les gens sont des flemmards.
Tu soulèves bien le truc, c'est que si t'es à Paris, ça va, mais si t'habites à la campagne, il y a que 3 chèvres autour. Bah, tu risques pas de...
Ça, c'est compliqué.
Mais imagine qu'il y a des Pokémon que tu peux trouver qu'à la campagne.
Ça, ce serait cool. Par contre, t'aurais l'air con si tu veux tous les choper, en mode t'arrives chez quelqu'un, tu sais, dans un trou perdu, tu fais excusez-moi, il y a un Pokémon juste derrière votre portail, est-ce que je peux passer.
Le mec, mettez pas bien, toi, allez.
C'est ça. Ou alors, le mec t'accueille avec un fusil.
Ou alors, si t'as la flemme, bah, tu vas au but de Chaumont, et puis voilà. Bon, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Ouais.
Ouais.
Voilà, ce fut un podcast riche en nouvelles, pourvu que ce soit comme ça toutes les semaines. Ouais. Bon, allez, messieurs, dames, rendez-vous la semaine prochaine. Ben, c'était un plaisir de te voir. J'espère que tu seras là la semaine prochaine.
Ouais, c'est pas impossible.
Voilà, allez, Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Salut.